Europe 1.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour faire le tour de l'actualité.
Europe 1 midi week-end, midi 30, 13h, Cédric Chasseur.
À la une, aujourd'hui, le calme qui est revenu à Grande-Synthe, cette ville du Nord, théâtre de 3 agressions en une semaine. Un homme de 22 ans est mort mardi et vendredi, sans doute par vengeance, un cousin d'un suspect a été agressé. Comment les habitants vivent-ils cette période? Direction le Nord au début de ce journal. Grande-Synthe, mais aussi Viry-Châtillon, Montpellier, Romans-sur-Isère, les agressions, les assassinats commis par des mineurs se multiplient. Quelle réponse face à ce fléau de l'ultra-violence chez les jeunes? Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, sera notre invité. C'est un témoignage bouleversant à la veille d'un nouveau procès dans l'attentat de Nice. Le père d'une des victimes s'exprime sur Europe 1. Thierry Vimal a perdu sa fille âgée de 12 ans le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Il raconte comment il se prépare à revivre l'insoutenable. La tendance météo, Anthony Kaczmarek.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Encore des averses cet après-midi entre la Normandie, l'Île-de-France, le centre et les frontières de l'Est. Mais partout ailleurs, c'est le soleil, en tout cas les éclaircies qui vont s'imposer. Avec un vent sensible, des températures toujours fraîches pour la saison. 7 à 15 degrés en général et 15 à 21 entre l'Aquitaine et la Méditerranée.
Et bulletin complet à la fin de ce journal.
Europe 1.
3 agressions en une semaine, dont une qui a conduit au meurtre d'un homme de 22 ans. Grande-Synthe vit au rythme des faits divers sordides cette semaine. Hier, c'est le cousin d'un des deux suspects impliqués dans la mort de Philippe Kopmann qui a été violenté. Il a été retrouvé nu sur la chaussée par un automobiliste dans ce qui ressemble à un acte de vengeance. Heureusement, la nuit a été plutôt calme la nuit dernière, mais sur place, la sidération et l'inquiétude gagnent certains habitants. Florence Biard.
C'est devant les petits commerces de quartier, comme à la boulangerie, que l'on peut croiser des habitants. Et c'est la sécurité qui alimente les discussions.
Même la nuit, la journée, je trouve qu'on n'est pas en sécurité.
C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de rien.
Avoir plus de personnel qui surveille la ville, la police municipale et nationale, parce que malgré que c'est le centre-ville, il y a pas beaucoup de, on ne les voit pas beaucoup tourner.
Mais les avis sont tranchés. Des habitants ne veulent pas voir leur ville stigmatisée.
C'est vraiment tranquille depuis toujours ici. On n'a jamais entendu de grands problèmes comme ça.
Hein. Grande-Synthe, on est tranquille. J'habite en campagne avant moi. J'adore Grande-Synthe. Fait tous ces petits délinquants et... C'est cela qu'il faut choper. Hein.
Cette nuit, il y a eu des rondes de police supplémentaires afin de rassurer la population et ramener le calme dans la commune. À Grande-Synthe, Florence Biard, Europe 1.
Cette série d'agressions à Grande-Synthe intervient après d'autres faits de violence impliquant des mineurs. À Viry-Châtillon ou à Romans-sur-Isère, par exemple, des adolescents se sont rendus coupables de meurtre. À Montpellier, c'est une collégienne de 13 ans qui a été rouée de coups par d'autres élèves. Pour tenter de répondre à ce fléau, le gouvernement a annoncé vendredi l'ouverture d'un Grenelle des violences des mineurs. Gabriel Attal sera d'ailleurs demain à Nice pour visiter un internat. Antoine Bienveau, bonjour.
Bonjour Cédric.
Quelle peut être la réponse de l'État pour ces jeunes qui défient l'autorité?
Eh bien, pour répondre à ce défi sécuritaire, Gabriel Attal a ouvert la porte jeudi au placement en internat des élèves ayant de mauvaises fréquentations. Le Premier ministre veut, je cite, aider les parents avant que ces jeunes ne tombent vraiment dans la délinquance. Pour cela, il souhaite également que les élèves de quartiers prioritaires soient présents à l'école de 8h à 18h. Des mesures saluées par l'avocat Jean-Yves Le Borgne, invité d'Europe 1 Soir week-end hier. Il envisage même une solution encore plus stricte.
Je pense qu'on pourrait même penser à un encadrement militaire. L'armée connaît la discipline, connaît les principes. J'ai eu quelques contacts avec des officiers de haut rang qui me disaient qu'ils étaient toujours prêts à assumer un certain nombre de fonctions si la nation le leur demandait, mais qu'évidemment, il faudrait leur en donner les moyens matériels.
Autre solution envisageable, celle d'un couvre-feu pour les mineurs. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, le JDD et CNews, 67% des Français sont favorables à un couvre-feu pour les adolescents de moins de 18 ans à partir de 23h.
Antoine Bienveau, bonjour Carl Olive.
Bonjour Cédric Chasseur.
Vous êtes député Renaissance des Yvelines, ancien maire de Poissy. On a l'impression que la société est aujourd'hui impuissante face à cette jeunesse qui a fait de la violence son credo.
On assiste à une dégradation de l'autorité de l'État depuis des années, vous avez raison, à l'endroit des policiers, à l'endroit des pompiers, à l'endroit des élus, à l'endroit des enseignants et aujourd'hui à l'endroit même des citoyens. On voit bien que le curseur doit être inversé. À partir du moment, et je l'ai toujours dit, vous le savez, y compris sur votre antenne, où on touche un policier, où on touche un enseignant, on touche la République, on abîme la France. Il faut être vraiment avoir la main qui ne tremble pas. Et c'est vrai que j'entends sur votre journal, Cédric Chasseur, ce que vous dites. Je pense que ça va dans le bon sens. Effectivement, l'internat encadré par les militaires, pourquoi pas? Ça, c'est pour, je dirais, les adolescents. Mais moi, je veux dire, on faut aller plus loin. Réinstaurer le service national. Quand nous étions, comme on disait, à l'armée pendant un an, c'était un brassage social, c'était un brassage culturel, c'était une relation à la discipline et au respect, c'était l'apprentissage. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Ça part de là, le socle. Quand j'entends effectivement un couvre-feu, comme d'ailleurs le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, le met en place avec des résultats...
67% des Français, selon le sondage Europe 1 CNews et le JDD, sont favorables.
Mais c'est Cédric Chasseur, c'est pas étonnant. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain, comme je le suis, en tant que maire de Poissy, il y a encore quelques années, et aujourd'hui, comme député, alors je vous parle, je sors d'un marché à plaisir dans la 12e circonscription des Yvelines. Oui. On a parlé de cette autorité de l'État. Évidemment que ça va dans le bon sens. Et il n'y a pas besoin d'inventer la machine à courber les bananes pour proposer de telles dispositions. Mais il nous faut du régalien qui soit vraiment ferme et sans appel. C'est ce que propose Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, et derrière il nous faut une justice qui soit plus réactive et plus rapide, et c'est ce qui commence à se passer avec les décisions du garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti.
Et Carl Olive, puisque vous évoquiez votre passé de maire de Poissy, j'ai le souvenir que vous aviez mis en place pour les parents démissionnaires une espèce de punition, vous aviez touché au porte-monnaie et aux aides de la commune. Est-ce que ça peut être aussi une solution pour peut-être mettre fin à cette délinquance des mineurs ?
À brandir la menace du porte-monnaie, Cédric Chasseur, c'est une dissuasion ô combien efficace. On a baissé la délinquance juvénile de 30% à Poissy. Comment ? Ce que vous caractérisez, je le définis comme un pouvoir d'achat citoyen pour des aides non obligatoires. 30 euros de réduction pour s'inscrire dans un club de sport, 50 euros pour faire une activité culturelle. En échange de quoi ? Et sans condition de ressources. En échange de quoi ? Eh bien que les jeunes aient un comportement citoyen. Et quand à 2h du matin, un jeune de 12 ans venait briser un abribus au vu et au su, il n'était pas question de maintenir ce type d'aide, encore une fois, non obligatoire. Eh bien, ça m'a permis de retisser le lien avec les familles et, en quelque sorte, de baisser radicalement, je dirais, la délinquance juvénile. J'ai pas eu besoin de l'État. On peut pas tout attendre de l'État. Vous savez, quand on est élu, on arrive à être acteur de son mandat et certainement pas spectateur de ceux des autres.
Les aides non obligatoires, mais pas les allocations familiales, par exemple ?
Je pense que déjà, rien que le fait de brandir cette menace du porte-monnaie, c'est une dissuasion qui est ô combien efficace. Ça m'a permis de retisser le lien avec les familles. Il faut faire du discernement. Vous avez des familles monoparentales. J'entendais sur votre antenne qu'effectivement, il y a des parents, il y a des pères de famille qui sont pas là parfois. Mais il y en a qui sont présents. Donc là, effectivement, on a des familles démissionnaires. J'ai pas eu, en fait, à utiliser cet outil. Rien que le fait de la menace, ça m'a permis de retisser le lien avec les familles.
Carl Olive, je voudrais vous faire entendre le témoignage d'un maire, celui de Moins, en banlieue lyonnaise. Il s'appelle Claude Cohen et il a choisi de jeter l'éponge. Alors, il dénonce beaucoup de choses pour les raisons qui l'ont poussé à démissionner. Mais parmi cela, il y a les insultes et menaces antisémites dont il se dit victime. Écoutez-le.
Là, il y a 3 semaines, je me suis fait insulter en tant que maire. Bien sûr, on n'insulte pas tous les maires. Je suppose que moi, c'est à cause de mon nom. Voilà, au bout d'un moment, c'est le ras-le-bol. Le dernier conseil métropolitain, une personne qui intervient, qui est élue communiste et qui a porté l'écharpe du Hamas pendant son intervention.
Vous êtes sûr que c'est l'écharpe du Hamas? Parce que là, on parle quand même d'apologie du terrorisme.
Je vous le garantis. Alors, je vais vous dire, je fais très bien la différence entre l'écharpe palestinien et l'écharpe du Hamas. Je fais très bien la différence. J'ai préféré démissionner. Je n'ai plus la force de supporter tout ça.
On parlait de la violence physique, mais il y a aussi la violence verbale. Elle touche les élus directement, Carl Olive.
C'est une défaite de la République, Cédric Chasseur. Et moi, je suis très frustré d'entendre la démission de ce collègue de Muyens, monsieur Cohen. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on touche un élu, un maire, on touche la République et on abîme la France. Et là, on abîme notre beau pays. Moi, je suis très frustré. Et encore une fois, j'apporte mon soutien à ce collègue maire. Mais on pourrait aussi parler du collègue maire de Villers-sur-Mer, Thierry Grand-Turcot, qui, pour des mêmes raisons, a démissionné il y a 3 semaines maintenant. Faut qu'on soit vigilant parce que les fantassins de la République tiennent la République. Les fantassins de la République, vous l'avez compris, ce sont les maires de notre beau pays. Et je suis d'autant plus frustré que c'est finalement abattre une carte et donner raison à celles et ceux qui veulent pourrir le quotidien des Français.
Alors, Carl Olive, pendant ce temps-là, la France Insoumise défile cet après-midi avec notamment le nouveau parti anticapitaliste ou l'Observatoire national des pratiques et des violences policières pour une marche contre le racisme et l'islamophobie à Paris. Une manifestation qui avait d'abord été interdite par la préfecture, puis autorisée par la justice. Les renseignements sont inquiets du pouvoir de nuisance et peut-être des incidents que pourrait créer cette marche. Que vous inspire cette manifestation ?
D'abord, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un farouche adversaire de la France insoumise. Je pense que ces gens-là sont des dangers pour la société. J'étais allé dans la provocation en disant que Jean-Luc Mélenchon devait être fiché S, tellement les dégâts que nous connaissons dans nos quartiers populaires, notamment, sont incommensurables. Pour autant, je crois à la liberté d'expression. Il faut se battre pour toutes celles et ceux qui doivent s'exprimer. Et à ce titre-là, j'ai presque envie de dire que je suis pas choqué sur le fait qu'il y ait cette manifestation. Maintenant, cette manifestation, elle doit se dérouler en ordre, en respectant effectivement les règles. Il n'y a pas de black bloc. Et on sait que c'est compliqué. On l'a vu pendant les gilets jaunes. On l'a revu pendant les manifestations de Casserolade avec les retraites pour que ce soit fait en responsabilité. Et j'appelle tous les organisateurs et ceux de la France Insoumise à faire en sorte que cette manifestation, pour le moins, se passe bien. Mais ne comptez pas sur moi pour dire que il faut interdire cette liberté d'expression. Moi, je me bats pour que ces gens-là puissent s'exprimer, quand bien même je suis leur premier opposant politique.
Vous êtes donc sur la même ligne que le président de la République qui avait dit en fin de semaine qu'il fallait que tout le monde puisse s'exprimer d'Éric Zemmour à Jean-Luc Mélenchon. Malgré tout, il a tenu des propos outranciers, Jean-Luc Mélenchon, cette semaine, comparant le directeur de l'université de Lille au nazi Eichmann. Rina Hassan, qui est candidate aux européennes avec LFI, qui est convoquée par la police pour apologie de terrorisme. Est-ce que pour vous, on l'a un élément de réponse peut-être, mais est-ce que pour vous, ce parti a encore sa place dans l'échiquier politique ?
Mais vous savez, c'est Éric Chasseur. Moi, depuis que je suis élu député juin 2022, je vois bien les dégâts au quotidien que la France Insoumise et leur orchestre peuvent faire jaillir. Et on le voit, nous, au quotidien, dans l'hémicycle. Et on le sent rejaillir sur le terrain. Quand vous avez des gens comme Monsieur Mélenchon qui disent que la police tue, que les chefs d'entreprise sont des salopards, que les journalistes sont des feignants, derrière, il faut rattraper tout ça sur le terrain, et notamment dans les quartiers populaires. Il y a un ruissellement de ce qui se passe au niveau du Proche-Orient, suivez mon regard, notamment dans nos quartiers. C'est insupportable parce que derrière, ces gens-là sont irresponsables et ne voient pas les dégâts au quotidien qu'ils peuvent occasionner. Ils ne sont pas les seuls responsables, mais vraiment, je peux vous dire que la France Insoumise, encore une fois, et je ne généralise pas, mais globalement, la majorité de la France Insoumise est un danger pour la société.
Mais donc, vous n'allez pas encore jusqu'à la proposition du sénateur LR Stéphane Le Rudulier de dissoudre, ou en tout cas de demander la dissolution de la France Insoumise ?
Écoutez, la France Insoumise, sauf à ce que je me trompe, et notamment ses élus députés, ont été élus démocratiquement, majoritairement, par un certain nombre de Français. À ce titre-là, ils ont leur légitimité jusqu'à preuve du contraire. Ils font partie des 577 collègues de l'Assemblée nationale et il faut les respecter.
Carl Olive, juste avant de vous remercier, est-ce que vous avez une réponse des gestionnaires d'autoroutes à votre proposition de rendre gratuit notamment la 14 et la 86 après la fermeture de l'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson pour des problèmes de voirie ?
Je suis très en colère parce que l'autoroute A13 est fermée depuis maintenant 48 heures. C'est les retours de vacances aujourd'hui de Normandie. Et puis c'est la fin des vacances scolaires pascales. Et puis ce soir, c'est le Paris Saint-Germain contre Lyon avec des supporters qui vont venir de l'ouest parisien et puis du centre de la France qui vont emprunter finalement des voies qui vont être ultra saturées. C'est insupportable. Je propose la gratuité de l'A14 et du duplex de l'A86 pour justement juguler et faire en sorte d'alléger, s'il le fallait, quelque peu le trafic. Et on n'a pas de retour des concessionnaires d'autoroutes. C'est insupportable. Ces personnes qui font 4 milliards de bénéfices en 2023 sont incapables de répondre à une question simple. Pendant 72 heures, ouvrez les autoroutes gratuitement. Vous ferez une bonne action pour les Français et ça n'ira pas, je dirais, poindre le budget de votre société. Ça n'ira pas faire un trou dans la raquette. Je vous le dis, c'est insupportable. Parce que quand on parle de super profiteurs, eh bien voilà, nous y sommes.
Merci Carl Olive, le message est à nouveau passé. Député Renaissance des Yvelines, bon dimanche à vous.
Merci Cédric Chasseur.
Dans un instant, l'aide américaine enfin débloquée pour l'Ukraine. Plus de 60 milliards de dollars rien que pour Kiev. À quoi va servir cet argent ? Et puis l'attente des familles israéliennes, toujours sans nouvelles de leurs otages aux mains du Hamas. À tout de suite, juste après la publicité.
Europe 1 midi week-end, midi 30, 13h, Cédric Chasseur.
Il est 1h moins de quart sur Europe 1. Voilà maintenant plus de 6 mois que les familles d'otages israéliens retenus à Gaza se rassemblent immanquablement. Tous les samedis depuis le 7 octobre, ils se retrouvent sur l'esplanade du musée des arts de Tel Aviv, que tous appellent désormais là-bas la place des otages. Hier, plusieurs milliers de personnes étaient encore réunies. En toile de fond, des inquiétudes grandissantes après les récentes tensions avec l'Iran. La correspondance de notre envoyé spécial sur place, Wilfried De Villers.
Nathan Siegel tend à bout de bras un grand portrait de son oncle Kiss, 64 ans, toujours retenu à Gaza. Depuis une semaine et les frappes iraniennes qui ont visé Israël, il craint que le sort de son oncle et des 133 otages ne soient relégués au second plan.
À chaque fois qu'Israël braque les projecteurs sur l'Iran, c'est ça qui fait la une. C'est dangereux. Vous savez, au début de la semaine, le cabinet de guerre s'est réuni et n'a parlé que de l'Iran, pas du tout des otages. Alors que tout ce qui devrait concerner le cabinet de guerre en ce moment, c'est de trouver une solution pour les otages.
Sa peur principale, que le gouvernement en fasse moins concernant les négociations avec le Hamas, celles qui n'aboutissent pas depuis des semaines. C'est aussi pour cela que Michael Levy estime qu'il est essentiel que les rassemblements comme celui de ce samedi se poursuivent.
Tout ce qu'il se passe est une préoccupation pour nous tous. L'une des raisons pour lesquelles nous nous rassemblons, c'est de faire en sorte que la priorité numéro une reste les otages. Là maintenant, il faut qu'on s'occupe du Hamas, ensuite ils n'auront qu'à s'occuper de l'Iran.
Un peu plus loin dans la foule, un homme crie un slogan anti-Benyamin Netanyahou. Il considère le Premier ministre comme responsable de l'échec des négociations pour la libération des otages. Tel Aviv, Wilfried De Villers, Europe 1.
Israël, où l'ambassadeur de France a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu, tout comme celui du Japon ou encore de la Corée du Sud, une vive protestation leur sera exprimée, indiquent les autorités sur place après le vote de ces pays en faveur de l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Israël, qui bénéficiera comme Taïwan ou l'Ukraine des 95 milliards d'euros d'aide enfin débloqués par les États-Unis, vote de la Chambre des représentants hier, plus de deux tiers de ce montant ira à Kiev, une victoire pour Joe Biden qui réclamait depuis des mois ses décisions, bloquées par des élus républicains. Car sans cette enveloppe, la CIA craint que l'Ukraine perde la guerre contre la Russie d'ici la fin de l'année. Il va donc falloir faire vite pour le général français Jean-Paul Paloméros.
Cette aide, elle va donner surtout de l'espoir aux Ukrainiens qui commençaient à désespérer parce qu'ils ne voyaient pas arriver l'aide américaine. Elle est capitale, elle est cruciale, elle est existentielle pour les Ukrainiens. Vous vous rendez compte, vous êtes obligé de donner quelques obus par-ci, quelques obus par-là, vous les distribuez aux différentes brigades. Mais on sait très bien que c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, les munitions. Sans munitions, évidemment, il n'y a plus de combat. Alors maintenant, la question, c'est de savoir à quelle échéance. Il faut faire très, très, très vite.
Le général Jean-Paul Paloméros au micro Europe 1 de Martin Lange. Retour en France demain, s'ouvrira en appel le procès de l'attentat de Nice, attentat qui avait fait 86 morts et des centaines de blessés sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Le terroriste au volant de son camion avait été abattu par la police, mais deux hommes ont été condamnés en première instance, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud, proches de l'auteur de l'attaque. Ils ont écopé de 18 ans de réclusion criminelle. Ils comparaissent de nouveau devant la cour d'assises spéciale cette fois. C'est un document européen que nous vous proposons à l'aube de ce nouveau procès. Notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel, a rencontré Thierry Vimal lors de cette nuit tragique. Il a perdu Ami, sa fille âgée de 12 ans. Il assistera encore au procès qui devrait durer 2 mois.
Thierry Vimal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le père d'Ami, l'une des 86 victimes de la folie meurtrière d'un terroriste islamiste, Mohamed Laouesh Boulel, qui le 14 juillet 2016, avec un camion, a fauché la vie de dizaines de personnes. Votre fille avait 12 ans. Le procès en appel se tient à partir de ce lundi. Deux proches du terroriste comparaissent, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud. Qu'attendez-vous de ce procès en appel ?
Ce procès en appel, j'en attends tout d'abord quelque chose qui n'est pas le sujet central, c'est le débat qu'il va y avoir sur les prélèvements d'organes, secret de la médecine légale, voilà, qui a sur 14 corps à prélever à 14 organes, hein, et n'a pas prévenu les familles, et ces organes étaient sous scellés dans l'Institut médico-légal de Nice. Et ma famille s'en est aperçue par hasard. C'est une grosse histoire. Moi, j'ai encore pas fini d'inhumer ma fille. Il manque encore. Je dois récupérer son cœur, son cerveau, qui ne sont plus identifiables par des tests ADN tellement ça a été abîmé. Enfin, il y a tout un scandale derrière l'attentat, c'est une deuxième affaire qui vient derrière. Donc pour moi, il est là, le gros morceau, c'est pour ça que je vais y aller dès la première semaine. Et puis ensuite, au niveau des accusés, des deux accusés qui ont fait appel, donc qui ont pris 18 ans chacun pour association de malfaiteurs terroristes, il reste des zones d'ombre. Moi, mon intime conviction, comme on dit, elle n'est pas faite. Elle est faite sur Monsieur Graieb, qui pour moi, par rapport à un certain nombre d'éléments, par rapport au ressenti, par rapport à comment j'ai vu les choses, etc., pour moi est clairement coupable et mérite clairement les 18 ans. Sur Monsieur Chafroud, je suis plus réservé, je ne comprends pas très bien, je crois que c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas très malin.
Deux procès très longs, en même pas deux ans, c'est dur pour les familles.
C'est dur, oui, parce qu'on va revoir les accusés, ce qui ne fait jamais plaisir. On va se rappeler les faits, on va écouter des témoignages, on va livrer le nôtre si on a envie. C'est des moments très durs. Et en même temps, c'est des temps où on est sur ça. Parce que nous, les gens vivent leur vie, les gens pensent à autre chose. Même les Niçois, tout ça, sont passés à l'état d'autre chose. Et nous, on est un petit peu seuls là-dedans. Et on se dit qu'il va y avoir plusieurs semaines qui vont être centrés là-dessus, on va parler que de ça, on va éclaircir des points, on va se discuter, et dans la salle d'audience, et autour. C'est aussi des moments qui paradoxalement font du bien aussi.
Il y avait eu un regret lors du premier procès, c'était peut-être une couverture médiatique moins importante que notamment pour les attentats du 13 novembre. Vous craignez là aussi que... On en parle beaucoup moins.
C'est vrai qu'en première instance, on pensait que vraiment, voilà, il y aurait beaucoup de gens qui viendraient, qui s'y intéresseraient. Et puis, voilà, l'attentat de Nice, il est terrible parce que y a beaucoup, beaucoup d'enfants, quoi. Hein. C'est un des attentats les plus meurtriers en termes d'enfants. C'était les vacances, je sais pas. Moi, je te dis, cet attentat, il est maudit, entre guillemets. Il y a plein de choses qui fait que les gens n'ont pas envie d'en entendre parler. Ce côté aussi, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armes de guerre, il y a un camion. C'est-à-dire que ça nous rappelle que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Pour moi, il y a un certain nombre de critères qui font que les gens n'aiment pas cet attentat, entre guillemets.
Vous avez écrit sur l'affaire plusieurs livres, vous tenez un blog, vous avez perdu votre petite fille, votre fille. Vivre ses procès, c'est lui rendre hommage aussi.
Vivre ses procès, c'est rendre hommage, c'est un devoir. On entend tout le monde pour essayer de savoir quelle est la vérité. Moi, ce que je peux faire pour la mémoire de ma fille, c'est suivre ça du plus près pour essayer de comprendre, voilà. Puis comme vous dites, après, de mettre des mots, d'essayer de donner du sens, voilà, d'écrire des chroniques d'audience, quoi d'autre sinon. What else?
Ça apaise, mais ça guérit pas.
Non, ça guérit pas, mais ça donne du sens et ça. Et comment dire? C'est pas. Je suis pas un cul-de-sac de douleur. C'est plutôt d'essayer de balancer le courage qu'on doit montrer et puis la façon d'essayer de transformer ça et d'y vivre avec. Et tout n'est pas fini.
Thierry Vimal, ce procès en appel ne sera peut-être pas le dernier puisqu'il y a une instruction à Marseille sur la sécurisation de cette soirée tragique. Et ça, pour vous, je crois que c'est très important.
L'instruction sur le dispositif de sécurité se faisait à Nice. En fait, ça a été beaucoup d'années où il ne s'est rien passé, où il n'y a pas eu d'audition de témoins, où toutes les demandes d'actes étaient refusées. Enfin, il ne s'est rien passé que de temps perdu quand j'y pense. Puis Maître Leroy et d'autres ont réussi à faire requalifier les faits, ce qui a permis en fait de déplacer du coup l'instruction à Marseille. Tout redémarre à zéro.
Mais c'est un espoir.
Déjà, c'est un espoir en la justice. C'est un truc qui me fait... Je me dis, bon, la justice quand même peut des fois... aller dans le sens des victimes, c'est horrible de dire ça, mais oui, c'est un espoir que la lumière soit faite, voilà, que les responsabilités soient établies. Maintenant, on va laisser travailler Marseille, et puis voilà, et centrer sur l'histoire des accusés, de la vérité, de comment, parce que ça reste quand même la question et un mystère, comment s'est goupillé cet attentat, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est mis en place.
Thierry Vimal, merci.
Merci beaucoup, merci à vous.
Midi week-end. Midi 30, 13h, Cédric Chasseur.
Il est 12h54 sur Europe 1. Stellantis accélère sa production pour les voitures électriques en France. Le quatrième constructeur automobile mondial a confirmé qu'un million de moteurs électriques sera produit dans l'usine de Trémery, près de Metz, d'ici la fin de l'année. Une réponse à l'interdiction de la vente des moteurs thermiques en 2035 en Europe. Trémery était d'ailleurs jusqu'ici le plus grand pourvoyeur de diesel de la marque. Le site doit donc s'adapter. Aurélien Fleureau.
Des hangars modernes, des lignes d'assemblage quasi neuves, le temple du diesel a fait sa mue et va accueillir deux nouveaux moteurs électriques, un petit pour la IC3 de Citroën et son grand frère pour la i3008 de Peugeot, avec un objectif: réduire les coûts, mode d'emploi en trois étapes, résumées par Cédric Place, directeur technique de l'usine e-Motors.
La première, c'est d'avoir le minimum de matière, moins de fer, moins de cuivre, moins d'aimants, moins de semi-conducteurs. La deuxième, c'est des produits qui se fabriquent rapidement et facilement. Et puis la troisième, c'est d'avoir des volumes. On va vers le million de moteurs assez rapidement, donc compétitivité.
Mais pour continuer cette montée en cadence, il faudra que les ventes d'électriques arrêtent de fléchir et que les politiques arrêtent de tergiverser, tacle Carlos Tavares, le patron de Stellantis.
Arrêtez de changer les règles, parce que moi j'ai 260 000 personnes qui travaillent nuit et jour pour répondre à ces règles. Nous sommes dans une industrie lourde, avec une durée d'exécution de ces investissements qui est généralement supérieure au mandat des politiques.
L'électrique restera-t-elle la seule option ? Carlos Tavares adaptera sa stratégie en fin d'année, après les élections européennes et américaines.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Les sports avec la 30e journée de Ligue 1. À 15h, Le Havre reçoit Metz, Lille, Strasbourg et Reims-Montpellier. 17h05, duel pour le podium entre Brest et Monaco. 19h, Toulouse, Marseille. Et puis enfin, 21h, 5 jours après sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affronte Lyon. Un rendez-vous qui a une saveur particulière, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un avant-goût de la finale de la Coupe de France prévue le 25 mai prochain à Lille. Deux formations en forme. Lyon poursuit sa fantastique remontée au classement et se rapproche du top 5. Les Lyonnais ont battu Brest dimanche dernier lors d'un match fou. Ils pourront compter sur leur prolifique attaquant Alexandre Lacazette, légèrement blessé et qui a repris l'entraînement. Mais la tâche s'annonce très complexe pour les Rodaniens au Parc des Princes. Les stars du PSG vont vouloir surfer sur leur qualification demi-finale de la Ligue des Champions, analyse l'entraîneur lyonnais Pierre Sage.
Pour moi, ça va avoir un effet positif pour eux. Et ils ont prouvé cette semaine qu'en plus, c'est un adversaire de très haut niveau sur la scène européenne. Donc le challenge va être élevé, mais notre ambition l'est aussi.
Paris, qui domine outrageusement la Ligue 1, espère remporter rapidement le championnat pour se concentrer sur la Ligue des Champions et la Coupe de France. En attendant, le PSG rendra ce soir hommage à son valeureux capitaine. Le défenseur Marquinhos est devenu le joueur le plus capé du club de la capitale et recevra un maillot spécial pour l'occasion.
Cyril de la Morinerie. Le week-end parfait de Max Verstappen à Shanghai. Le Néerlandais, vainqueur de la course sprint hier, a remporté ce matin le Grand Prix de Chine. Le pilote Red Bull n'a absolument pas été perturbé par l'effet de course, Christopher Filhoc.
Oui Cédric, il s'impose facilement malgré une course hachée par deux voitures de sécurité. Le triple champion du monde continue de dominer tous les grands prix qu'il termine. 58e victoire pour le Néerlandais. La première sur ce tracé. Lando Norris, lui, avec sa McLaren, a joué sa carte à fond. Il monte sur la deuxième marche du podium devant Sergio Perez. Et puis pour la première fois de la saison, donc aucune Ferrari sur le podium. Charles Leclerc et Carlos Sainz terminent respectivement 4 et 5e. Derrière, on retrouve George Russell, Fernando Alonso et Oscar Piastri. Lewis Hamilton, parti 18e, accroche la 9e place. Nico Hülkenberg complète le top 10.
Et nos Français dans tout ça?
Eh bien, après un début d'année passé en fond de gris, il y a du progrès. Les Alpines retrouvent quelques couleurs. Esteban Ocon et Pierre Gasly terminent 11 et 13e. Esteban Ocon au micro de Canal+, frustré de terminer si proche du top 10.
C'est dur d'échouer à 2 secondes du top 10 parce que ça aurait été vraiment une belle fin d'avoir ce point. Maintenant, Hülkenberg est sous investigation. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est notre meilleur résultat de l'année et il faut qu'on continue à progresser dans ce sens.
À noter que Guan Yu Zhou, 14e, a pu profiter de sa première course devant son public à Shanghai, le pilote chinois s'est même illustré en fin de course, acclamé par ses fans.
Christopher Filhoc. Et puis autre néerlandais en forme, le cycliste Mathieu Van Der Poel lui rêve d'un triplé après le Tour des Flandres et après Paris-Roubaix. Il s'aligne aujourd'hui sur la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. 110e édition, les coureurs sont partis peu avant 11h pour 255 km.